Aux ordres du cœur de Fabrice Colin. Jour 1. J'ai confié à ma mère les clés du réel. Je lui ai laissé le côté fenêtre du train parce que c'est celui qu'elle préfère. La première heure, elle la passe rêveuse, la tête contre la vitre, à regarder les champs défiler. Les paysages sont moins fatigants que les gens. Ils ne posent pas de questions. Du coin de l'œil, je la surveille. Contrairement à ce que je craignais, elle ne me demande pas où nous allons. Miracle ? Un drôle de sourire plane sur sa figure. Brusquement, le train entre dans le tunnel et elle se tourne vers moi affolée. Il fait nuit ? Pourquoi il fait nuit ? Je pose une main sur son bras. On va aller boire un chocolat chaud. Les yeux rivés à la fenêtre, elle se mord les lèvres. Je ne comprends pas, quelle heure est-il ? Sa voix tremble. Le jour arrive bientôt, dis-je. La nuit ne dure jamais longtemps. Elle scrute mon visage à la recherche d'une trace de duplicité. Nous devrions dormir, non ? Je souris. Un bon chocolat, super mousseux. Elle me fixe circonspecte. Je lui présente ma paume ouverte. Viens avec moi. Où ça ? Dans le wagon suivant, une dame va nous préparer un chocolat. Le wagon ? Oui, il y a juste une porte à ouvrir. Est-ce que c'est loin ? Non. Est-ce que je dois prendre mon manteau ? Non plus. De l'autre côté de l'allée centrale, une jeune femme noire, voilée d'un foulard en tissu, essaye de lire son magazine. Elle a du mal, évidemment, elle nous écoute. Je me lève, entraîne maman. Allez. Elle secoue la tête. Ça bouge. « Viens, dis-je encore. » Nous voici en route. Maman procède par petits pas prudents. Le wagon-bar est désert. Le barista est un grand chauve émacié qui porte un brillant à l'oreille et sifflote en consultant son portable. « Tu avais parlé d'une dame ?»« Je me suis trompée. S'il vous plaît ?» Le barista repose son téléphone, je me tourne vers maman. « Nous voudrions deux chocolats bien chauds. » L'intéressé confirme. « Avec de la mousse, hose-t-elle. « Deux chocolats !» répète le type en déclenchant sa machine. « C'est parti !» Un ronronnement se fait entendre. Maman sursaute. « Il fait nuit » murmure-t-elle. Le barista dépose les chocolats sur le comptoir et annonce le prix. Je lui tends un billet. « Je suis Nelly Mercandier, » déclare maman, « l'épouse de John Solomos Garner. Enfin, épouse. Ne brûlons pas les étapes. » Enchanté, le type tire sur le badge au revers de sa veste. « Moi, c'est Marc. » Elle plisse les yeux pour lire. « Marc ?»« Le seul et unique. Vous habitez ici, Marc ?» Il pivote, considère ses 3 mètres carrés. « Possible. » Maman porte le gobelet à ses lèvres. « Vous devez connaître mon mari, John Solomos Garner. Il réalise des films. » Marc acquiesce. Nos regards se sont croisés. « Si je le connais, et comment ? Mrs. Dalloway, Peter Pan ?» Le visage de maman s'illumine. Elle repose son gobelet. « Vous êtes cinéphile ?»« Valse triste, poursuit-il, aux ordres du cœur. » Elle secoue la tête. Forcément, le voilà qui cite des longs métrages dans lesquels elle n'a pas joué. Non, non, vous devez confondre. Il est sur le point de répondre, se ravise in extremis. C'est sans doute vrai. Il se tapote le crâne. J'en vois tellement. À la fin, tout se mélange. Il a compris. Quel homme. J'ai envie de lui sauter au cou. Maman reprend son chocolat sans le quitter des yeux. « Je sais ce que vous pensez. »« Oui. Vous voulez un autographe, mais vous n'osez pas me demander. » Il lève les mains, grimace. « Démasqué. » Elle attrape la facture restée sur le comptoir et sort un stylo de la poche intérieure de sa veste. Sourcils froncés, elle griffonne un signe cabalistique qui ne ressemble à rien, puis le tend à Marc en jetant un œil aux alentours. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Je tiens au respect de ma vie privée. Il prend le bout de papier, le plie soigneusement en deux. Maman a rangé le stylo dans son sac. Merci, merci mille fois. Je me dis qu'il ne l'a pas reconnu. Ou peut-être que si. Qu'est-ce qui serait le mieux? Je n'ai pas touché à mon chocolat. Retournons nous asseoir, maman. Elle sourit, pointe un index sur le dénommé Marc. Je compte sur vous. John déteste que je me mette en scène, en dehors des plateaux, s'entend. Il lui mime une bouche cousue. Je la prends par le bras et nous nous éloignons. À plusieurs reprises, préoccupée, elle se retourne vers lui. « Tu crois que j'ai bien fait ?»« J'en suis certaine. » Une heure plus tard, le train entre en gare. « Bienvenue à Londres Saint-Pancras !» annonce une voix dans le haut-parleur. Maman hausse un sourcil. « Il voulait dire Waterloo, non ?» Il a dû se tromper. Je descends sa valise, glisse la lanière du sac à dos sur mon épaule, laisse passer maman devant moi. Une fois sur le quai, elle donne des signes de nervosité. « C'est pas Waterloo !» Elle me serre le bras, contrariée. « Tu m'entends ? Ce n'est pas la bonne gare !» La tuile. Évidemment. Il y a si longtemps qu'elle n'est pas venue ici. Il faut que je trouve un truc. Ne bouge pas, je vais demander. J'aperçois un employé non loin, je l'arrête d'un geste. Bonjour. Excusez-moi. Vous savez depuis combien de temps cette gare existe ? La question la plus idiote du monde. Le type se frotte la nuque. 19e siècle, je crois. Si vous désirez... Merci beaucoup. Je reviens vers maman. Tu avais raison. Tu vois, ils se sont trompés de gare, ça arrive parfois. Pas grave, on va rejoindre Holland Park autrement. Elle cligne des paupières. Comment peut-on commettre une erreur pareille? Incroyable. Oui, elle se fige, je n'aime pas ça. Moi non plus, tu sais. Si on ne peut plus se fier au conducteur de train, où va-t-on? Il sera probablement licencié, maman. Elle acquiesce, troublée. Licencié, peut-être pas, mais il aura au moins un avertissement. Viens. Allez, viens, on va prendre le métro. Axiome premier. La vérité n'a aucune importance. C'est maman qui choisit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Corollaire, j'irai où ma mère ira. Je désagrégerai le réel pour ses beaux yeux. Peu importe ce que nous verrons, ce que nous vivrons, elle aura toujours raison. Nous avançons vers le point de contrôle. J'espère que les douaniers ne nous arrêteront pas, qu'ils ne nous poseront pas de questions. J'ai 17 ans, ça pourrait mal tourner. Comment réagirais-je s'ils se mettaient à exiger des détails? Je pourrais appeler mon père. Il me tuerait, mais il arrangerait sûrement les choses. Je pourrais appeler la psychiatre de maman, Madame Garinet. Elle non plus n'approuverait pas. Enfin, pas totalement. Vous êtes trop jeune, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous n'avez pas à prendre un tel fardeau sur vos épaules. Et puis, cette idée de tout lui passer, de tout lui laisser croire, je ne suis pas certaine d'adhérer. Mais soyons clairs. C'est maintenant ou jamais. Qui sait où en sera maman dans un an? Ce qu'elle sera encore capable de vivre? Elle a le droit d'être ici. Si je n'accomplis pas ce voyage avec elle aujourd'hui, si je ne me plie pas à sa volonté, à ses visions, à ses rêves, je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. 10. Pourquoi y a tant de monde? Règle numéro 1. Contente-toi de répondre. C'est elle qui pose les questions. Ce sont des touristes, maman. J'allais dire comme nous, mais je me retiens. Parce que, aux dernières nouvelles, nous ne sommes pas en visite, nous habitons ici. Je la revois, pensive, regardant par la fenêtre. Le monde a un sens, mais ce n'est pas le même pour elle que pour moi, et dorénavant, c'est elle qui a raison. Considérez-la à la façon d'une souveraine, répétait Madame Garinet avant de se rendre compte que j'allais la prendre au mot. Vous êtes chez elle, elle connaît les frontières de son monde. Pliez-vous à ses règles, si règles il y a. Ne lui imposez rien, son bien-être moral est la priorité. J'ai érigé cette règle en principe définitif, absolu, quitte à laisser ma raison de côté. Dis-moi qui nous sommes, maman. Où nous allons? D'où nous venons? Quand? Pourquoi? Comment? Et je te suivrai. Jusqu'à la fin, je resterai avec toi. Les douaniers nous ignorent. Je serre la main de ma mère dans la mienne. Nous gagnons le métro. À la dérobée, je lui jette un coup d'œil. Elle semble heureuse. Un brin désarçonné, mais je m'attendais à pire. Quel âge a-t-elle? Disons 20 ans? Elle ne connaît rien du monde. Elle vient de rencontrer John au festival de Cannes et elle est tombée amoureuse comme on chute d'une falaise. La maison de John. Briques brunes, stuc blanc, grille noire de fer forgé. Puissante, altière. Nous aurions dû débarquer en limousine, chauffeur et gants crème. Mais avec quel argent? J'ai vidé mes 2 comptes pour ce voyage. Je me suis convaincue qu'après, elle n'avait aucune importance. Est-ce que John est là? 10 fois qu'elle me pose la question. Tout à l'heure, dans le métro, elle a ouvert son nécessaire à maquillage pour se refaire les paupières. Je ne crois pas, maman. Il me semble qu'il est sur un tournage. J'appuie sur le bouton de la sonnette. Par SMS, j'ai prévenu Sapienza de notre arrivée. Elle a juste répondu « Parfait ». Quel âge avait-elle quand elle est devenue l'assistante de John? C'était il y a plus de 40 ans. Elle en a quasi 70. Je ne l'ai vue qu'une fois et j'étais trop gamine pour m'en souvenir. Elle, affirme-t-elle, n'a rien oublié. La porte s'ouvre, une femme vive et longiligne, cheveux argentés, visage en lame de couteau. Tout est fin chez elle, le nez, la bouche, un regard pénétrant derrière des petites lunettes rondes. Nous avons poussé la grille après le déclic, mais nous laissons Sapienza descendre à notre rencontre, parce que maman est quoi ? Intimidée ? Bienvenue, Nelly. Notre hôtesse la tient à bout de bras, les mains sur les épaules. Maman esquisse un sourire. Vous êtes ? Sapienza, l'assistante de John. Je retiens mon souffle. C'est moi qui lui ai certifié qu'elle pouvait révéler son nom. Ma mère ne parle jamais de vous, l'ai-je rassurée. L'espace de quelques secondes, j'ai peur de m'être trompée dans les grandes largeurs. Et si elle se rappelait tout, au contraire? Sapienza. Italienne, je présume. Mais non. Non. Elle ne se souvient de rien. La grande dame digne ne scie pas. De Sardaigne. Le voyage fut-il bon? Oui, oui. Sapienza pivote vers moi, me tend la main. « Bienvenue, mademoiselle. »« Merci, bredouillai-je, de nous accueillir et, enfin, je suis ravie. » Elle s'incline avec grâce, d'un air de dire « rien de plus naturel ». Pourtant, je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit « Maman veut revenir ». Maman veut revoir la maison où elle a vécu. Nous reconstruisons une vie, sa vie d'avant. Vous lui devez bien ça. Sapienza s'est comportée en lady. Je comprends, a-t-elle répondu. Fournissez-moi toutes les précisions que vous jugerez utiles. Les chambres sont prêtes, elles vous attendent. » Nous entrons. Le salon est tellement vaste. Il y flotte une odeur de cire, d'automne langoureux. On se croirait dans un magazine. Un luminaire en bois de serre, un ours empaillé. Ici, un billard, un tapis persan. Là, une cheminée à la tablette délicatement ouvragée. Le salon, salle à manger, ouvre sur le jardin. Le parquet brille. Papa prétend qu'une maisonnette de ce style va chercher dans les 10 millions de livres. Sapienza nous envisage. Tout va bien ? Maman ne bronche pas. Bientôt, une jeune femme blonde, la taille ceinte d'un tablier à l'ancienne, prend nos bagages et nos manteaux. Nous montons au premier étage. Nos chambres se jouxtent. Les fenêtres sont ouvertes. Les rideaux blancs ondulent en fantômes. Maman a l'air perdue. Elle pourrait reconnaître les lieux. Peu de choses ont changé. Mais plus rien n'est tout à fait sûr. « Où est John ?» Elle s'est adressée à Sapienza, qui lui sourit. « Pas loin, un tournage. » Notre hôtesse s'exprime avec assurance. Elle connaît son rôle sur le bout des doigts. « Sera-t-il là demain ?»« C'est pas impossible. »« Tout de même, il sait que je suis arrivée, non ?»« Assurément. » »« Quel genre d'homme s'absente au moment où sa fiancée s'annonce ?» Petit rire de Sapienza. Le genre peu précautionneux à tout le moins. Mais il est ainsi. Et c'est ainsi que tout le monde l'aime. Nous redescendons. Maman tire une chaise et s'assied à la grande table du salon salle à manger devant la baie vitrée. Là-bas, au bout du jardin, un employé attaque les haies au sécateur. Est-ce Robert ? S'enquiert maman. Sapienza secoue la tête. Le Robert en question a pris sa retraite il y a 20 ans. C'est Amar, madame. Robert est en congé. Amar. Au fond de la cuisine américaine, une bouilloire siffle. Sapienza part s'en occuper. Thé ? Maman ouvre de grands yeux. Vous n'auriez pas un chocolat chaud plutôt ? Son nouveau péché mignon ces temps-ci. Elle qui ne supportait pas le lait. Nous allons demander à Lucie de vous préparer ça. La jeune domestique qui s'affairait non loin opine du chef et rejoint la cuisine. Sapienza s'assied avec nous. Au fond du jardin, les ombres des tilleuls s'étirent. Quel calme au cœur de la ville. Pas un oiseau. Des nuages inoffensifs. Maman montre sa main à Sapienza, doigt écarté. L'alliance de son second mariage est toujours en place, mais ce qui l'intéresse, c'est le saphir. John et moi avons des projets. Formidable ! La cérémonie est prévue pour novembre. Je suis sûre, commande Sapienza, que tout se passera bien. Nul trouble sur son visage. La réalité, c'est nous qui décidons de ce qu'elle est. Nous, collectivement. Si tout le monde joue le jeu, alors nous pouvons créer autre chose. Et maman sera peut-être heureuse. Le dîner ? Une affaire silencieuse. Maman ne prononce pas un mot. Elle lave son potage à la va-vite, jetant partout des coups d'œil plein craintifs. Lucie virevolte autour de nous. La cuisine est délicieuse. De l'agneau confit avec des pommes grenailles typiques, des fruits en dessert, parfait. Dehors, la nuit a vaincu. Un feu tranquille crépite dans la cheminée du salon. Le souper achevé, nous allons nous y installer. De moelleux fauteuils nous attendent autour d'une table octogonale en verre. Sapienza feuillette un magazine d'histoire. Maman regarde les flammes danser. Moi, je regarde maman. Il exagère. soupire-t-elle. John, encore et toujours. J'essaye de me les représenter, elle et lui, ici, sur ce canapé, lovés l'un contre l'autre. S'accordaient-ils de tels moments, parfois? Ont-ils connu la plénitude, une forme de paix? Elle pose sa main sur la mienne, ses yeux m'implorent. Nous sommes fatigués, dis-je. Elle approuve, songeuse. Peu de temps après, nous montons nous coucher. Nos chambres sont restées ouvertes. Elles sont si vastes, elles aussi. Et chacune a sa couleur. À moi la verte, à maman la violette. Ce n'est pas la bonne, lâche maman, bloquée sur le seuil. Je lui montre l'autre. Celle-ci, alors? Je commence à connaître cet air buté. Mince. Mince, tout allait si bien. Non, non. Je me passe une main sur le visage. Désigne un fauteuil dans le couloir. Attends-moi ici. Où est-ce que tu vas? La panique danse dans son regard. Elle déteste quand je m'éloigne. Demander des serviettes à Sapienza, j'en ai pour une minute. Bon, une minute, pas plus. Je redescends au salon. Un petit PC portable doré posé sur les genoux, Sapienza s'active. Jamais vu quelqu'un pianoter aussi vite. Tout se passe bien? Maman ne reconnaît pas sa chambre. Quelle sottise, j'aurais dû y songer. Il y a eu pas mal de travaux ici. Je vais lui laisser la mienne. Quoi? Non. C'était la sienne autrefois. Je veux dire, la leur. Mais vous n'allez pas... Elle referme l'ordinateur, se lève, lisse sa jupe. Ce n'est rien, assure-t-elle. Rien du tout. Je m'en occupe. Elle se dirige vers les marches. Je lui emboîte le pas. Ma mère, ce tyran qui s'ignore. Comment se porte-t-elle? Mon père. Il est 22h40, heure locale. Je suis redescendue pour ne pas que maman m'entende. Et parler en français me fait du bien. Elle dort. Le jardin est plongé dans la pénombre. Des chauves-souris s'égayent dans l'obscurité. Peut-être les fruits veloutés de mon imagination. Des rêves. Je t'en veux, Joanne. Je ne dis rien, il n'y a rien à dire. « Tu m'écoutes ?» insiste-t-il. « Tu abuses de la bonté des gens. » Je n'ai appliqué que Sapienza, papa, et elle avait le droit de refuser. Et si ça tournait mal? Elle est heureuse, elle est en train de retrouver son monde. Tu n'en sais rien. J'ai travaillé sur le sujet. J'ai amassé des documents, je connais son royaume, je connais ses frontières. Tu te bases surtout sur un parti pris thérapeutique hautement controversé. Ne pas contredire un malade est une chose. Alimenter son délire en est une autre, bien différente. Au moins, j'essaye. Toi, tu as lâché l'affaire. Tu mènes ta vie et sincèrement, je suis contente pour toi, mais je ne pense pas que tu sois en position de me donner des leçons. Il ricane. À t'entendre, ce qui s'est passé est de ma faute. Là, tu extrapoles. Ça n'a pas été simple, tu sais, à aucun moment. Le truc préféré des adultes, ça n'a pas été simple, sans blague, et pour moi. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Considérons toute la mère d'avant et toute la mère d'après. Est-ce que j'ai demandé à venir au monde? « Bonjour, Madame Lavie. Pourrais-je recevoir une autre gifle, s'il vous plaît ?»« Quand comptes-tu rentrer ?»« Aucune idée. »« Tu n'as pas acheté des billets de retour ?»« Si, pour dans 10 jours. Et ils sont modifiables. »« Peut-être que maman voudra rester ici. »« Il faudra que je parle à Sapienza, alors, qu'on puise dans les réserves. »« Dans 6 mois, je serai majeure, je pourrai la placer sous ma tutelle. » Mon père se racle la gorge, signe chez lui d'intense contrariété. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire ? Ta mère n'est pas un sujet d'expérience, Joanne. Oh, les bras m'en tombent. Des semaines que je travaille ce que nous vivons maintenant. Des semaines que je réfléchis, que je compose, que je délimite. Une expérience ? Je dois y aller. Rappelle-moi dès que possible. Cette discussion est loin d'être terminée. À plus tard.